bonjour, vous écoutez bien Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. L'émission Vendémiaire, donc de ce 28 avril 2016, qui va être la deuxième d'une série de deux consacrée à l'ouvrage L'espèce humaine de Robert Antelme, et plus généralement à Robert Antelme lui-même. Donc je ne vais pas vous refaire toute la présentation que j'avais faite lors de la première émission, mais on dira quand même que il est né en 17, il avait 27 ans en 44 et il est décédé en 90 à 73 ans. Entré dans la résistance donc fin 43, début 44, il est capturé en juin et déporté. Et là, il va passer donc quasiment une année en déportation au camp de Buchenwald et entre autres dans un commando de Gandersheim. Il sera libéré le 8 mai 45 à l'extrême limite de la mort. Il rapportera plein de choses dans sa tête et il écrira rapidement un ouvrage qui s'appelle L'espèce humaine, qui est un des ouvrages très forts et très importants sur la déportation, en cela que, au-delà des faits qu'il rapporte, qui sont bien sûr saisissants, il mène en permanence dans cet ouvrage une réflexion à la fois sur le statut des déportés des nazis, sur comment était ressenti, vécu tout ce qu'il a eu à subir. Voilà, nous vous en donnerons avec l'aide de Combor, qui a bien voulu participer à ces émissions, en disant donc les textes de Robert Antelme que nous avons choisis ensemble. Nous évoquerons plus particulièrement aujourd'hui à la fois le problème de la faim auquel, quant à moi, j'ai jamais rien trouvé d'écrit d'aussi fort sur ce qu'on peut ressentir quand on est extrêmement affamé comme il pouvait l'être, bien sûr. Et puis la faim de la déportation et une espèce de course à la mort comme il y en a eu dans beaucoup des camps. La fin de la déportation jusqu'à sa libération au dernier jour de la déportation. Voilà, de courtes pauses musicales interviendront entre chacun des extraits de lecture que nous allons vous proposer.
Robert Antelme, l'espèce humaine. Nous sommes encore, Jacques et moi, dans le petit magasin du sous-sol. Bientôt, ce sera midi et demi, l'heure de la soupe. Nous avons encore une soupe à mi-tac, mais ça ne va pas durer. Bientôt, nous n'aurons plus que le pain, le matin, avec la ration de margarine et la soupe, le soir. En attendant que la sirène sonne, je me suis planqué dans une travée. J'y suis depuis quelques minutes quand arrive une femme allemande. Elle cherche une pièce. Je fais semblant de chercher aussi. Je la surveille du coin de l'œil. Elle est jeune, maigre, assez grande, des yeux bleuâtres dans une figure blafarde avec des cheveux clairs. Elle regarde de mon côté. Je fais toujours semblant de chercher. Pour avoir l'air plus naturel, je cesse même de la surveiller, je la perds de vue quelques secondes. Elle est allée au bout de la travée, vers l'extérieur. Elle avance la tête, me tournant le dos, elle a l'air de surveiller l'allée. Puis elle me fait face, rentre dans la travée, marche vers moi, s'arrête et s'appuie contre les casiers. Je me tiens aussi appuyé, contre les casiers, à 2 mètres d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle regarde encore vers moi. Elle hésite, puis elle approche latéralement, faisant toujours face au casier. Je ne bouge pas. Elle arrive près de moi. Je ne bouge toujours pas. Elle tourne rapidement la tête vers l'allée, puis elle met la main gauche dans la poche de son tablier. Elle la sort, fermée sur quelque chose. Sa figure se crispe. Elle me tend sa main fermée. « Nicht sagen, » dit-elle à voix basse. Il ne faut pas le dire. Je prends ce qu'il y a dans sa main. Donc. C'est dur ce qu'il y a, dans sa main. Je serre, ça craque, sa figure se détend. Mein Mann ist gefangen. Mon mari est prisonnier. Et elle s'en va. Elle m'a donné un morceau de pain blanc. Je mets la main dans la poche, je ne lâche pas le morceau. L'événement m'empêche de tenir en place. Je sors de la travée, la main dans la poche. Les copains de la soudure sont penchés sur leur chalumeau. Il ne leur est rien arrivé à eux. C'est comme si je les regardais de l'extérieur du barbelé. C'est une femme de l'usine. Elle travaille avec celle qui rigole quand un Meister frappe un copain. Le Rénan aussi travaille avec eux. Les copains ne savent pas ce qui s'est passé entre cette femme et moi qui suis l'un d'eux. Ils n'ont pas vu sa figure quand elle a tendu le pain et sa figure après qu'elle l'a lâché. Mi, écoute, c'est de l'or. Les dents vont gâcher ça. De ça aussi, elles vont faire une boule aussitôt avalée. Ce n'est pas du pain de l'usine Buchenwald, du pain travail, schlag, sommeil. Même en allant plus lentement que d'habitude, ce pain-là aussi sera mangé. Et c'est parce que ça se mange qu'elle a dit « nicht sagen ». Il faut donc le manger. Après, ce sera fini. Il n'y aura pas un autre morceau de ce pain. Comme ce qui est arrivé avec le Rénan, ce qui est arrivé avec cette femme restera inachevé. Ils sont apparus un instant dans l'ombre d'une travée. Ils ont fait signe. À la soudure, dans le hall dehors, au grand jour, nous continuerons à les faire fuir. Quand on croisera la femme, elle fera peut-être un signe de tête imperceptible, et quand on passera à côté du Rénan dans les couloirs de l'usine, il dira entre ses dents. « Guten Morgen, monsieur. » C'est tout. Il faudra se contenter de savoir. Mais la puissance de l'attention est devenue formidable. Les convictions se font sur des signes. « Nicht sagen, langsam. » Par le langage, je ne saurai de jamais rien de plus. Comme le morceau de pain, ces mots donnent la clé de cette cave noire, de ces catacombes presque totalement inaccessibles pour nous, la conscience. Ce qu'il y avait de conscience alors, dans l'Allemagne. Et on guettera, on flairera l'Allemand clandestin, celui qui pense que nous sommes des hommes. Plus tard, la cuisine a demandé des hommes pour une corvée. Il ne fallait jamais rater une corvée à la cuisine. Il s'agissait de trier des pois secs. On a ouvert la grande porte de la cuisine, et quand on est entré, on a été intimidé. Sur la gauche, il y avait un tas de patates. On nous a empêchés d'en approcher. Le chef cuistot polonais nous a aussi empêchés d'approcher des marmites. Lucien était derrière une grande table sur laquelle se trouvaient de la viande et du pain. Auprès de lui, un aide-cuistot découpait la viande. On nous a aussi empêchés d'approcher. On est allé remplir une gamelle de pois dans un tonneau et on nous a parqués autour d'une petite table. On a vidé les gamelles sur la table et on a commencé à trier. Nous étions assis de chaque côté de la table. Des Italiens, des Russes sont venus. Il y avait aussi l'évangéliste allemand. Derrière nous, le Lager Polizei. Le capot. Et Lucien, il surveillait en marchant. On triait. Quand ils étaient passés, on s'envoyait très vite des grains dans la bouche, mais on risquait de mâcher encore quand ils revenaient, et ils surveillaient les mâchoires. Un coup de poing du Polizei sur la tête de mon voisin. Et sa mâchoire remuait. Le Polizei ne s'était pas arrêté, il avait frappé en marchant. On a recommencé à piquer dans le tas de poids et à mâcher. On avait convenu que ceux qui étaient de l'autre côté de la table et leur faisaient face nous préviendraient lorsqu'ils repasseraient. Ainsi, les mâchoires s'immobilisaient, et reprenaient mécaniquement. L'évangéliste, lui, ne mâchait pas. Lorsque le tri a été terminé, j'ai réussi à camoufler quelques poignées de poids dans une gamelle sur laquelle j'ai empilé d'autres gamelles vides. Ils nous ont fouillés en sortant, mais n'ont pas pensé à détacher chaque gamelle de la pile. Un autre avait fait comme moi, mais il était trop pressé de faire sa soupe. Arrivé au bloc, il a rempli une grande cuvette d'eau, il y a jeté les pois, puis les a mis à cuire sur le poêle. L'odeur s'est répandue, elle était trop forte. Fritz, qui se doutait qu'on avait réussi à sortir des pois, a ouvert la porte de la chambre. Il a senti aussitôt l'odeur et il est allé droit au poêle. Il a demandé à qui était la soupe. Personne n'a répondu. Il a menacé de priver tous les Français de soupe le lendemain dimanche. Mais finalement, il s'est contenté d'emporter la cuvette. La soupe de pois commençait juste à épaissir. C'était les capots qui allaient la manger. J'ai caché mes pois dans ma gamelle sous la paillasse et je les ai gardés pour le dimanche. Dimanche. La matinée s'est passée en corvée. Il faisait moins froid, mars avançait. Nous avions eu la soupe à midi, liquide, avec les pois que nous avions triés la veille. Mais Francis en faisait cuire une autre sur le poêle, avec ceux que j'avais fauchés à la cuisine. Il avait emprunté pour cela une grosse gamelle à un camarade. On allait la manger vers le soir. Francis ne quittait pas le poêle où certains faisaient cuire des soupes aux épluchures de rutabaga et où d'autres faisaient griller des épluchures. Ceux qui n'avaient même pas d'épluchures s'étaient couchés. Terribles après-midi de dimanche, vides après la soupe ordinaire. Regarde ceux qui n'avaient rien sur les gamelles de ceux qui s'étaient démerdés pour ne pas passer le dimanche sans rien. Comment fuir cette prison? Plutôt l'usine que cette marche dans l'allée de la chambre, que de devenir ce possédé qui raclait sa faim contre son lit, contre le banc, puis baissait la tête avec les odeurs de cuisson qui lui rentraient dans le nez. Notre soupe était épaisse à point. Elle sentait bon. Francis l'avait ramenée et cachée sous mon lit. Puis il était allé aux chiottes. Assis sur le banc en face du lit, je la gardais. Avant que Francis revienne, j'étais allé me chauffer les mains au poêle. J'y étais resté un moment, puis j'avais repris la place sur le banc d'où je voyais la paroi de la gamelle. Puis Francis était revenu. Elle était belle. On avait de la veine. On aurait voulu attendre encore avant de la manger. Le jour baissait. On irait s'asseoir sur le lit et on la mangerait lentement, puis on bavarderait et on se coucherait. Oh, on avait de la veine. Il fallait se défendre et essayer de recommencer dimanche prochain. Si on arrivait à se défendre comme ça, peut-être qu'on pourrait tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, il n'y en avait plus pour longtemps. L'offensive alliée marchait bien et les Russes s'avançaient sur Berlin. On surveillait la paroi de la gamelle. Oh, encore un mois et ils étaient foutus. Mon schnung expirait le lendemain, mais j'allais tâcher de le faire prolonger. Si on pouvait avoir une soupe comme ça tous les jours, on n'entendrait pas constamment parler de bouffer, oui. J'irai à Nice en rentrant. On mangerait un pambagna. On surveillait la paroi de la gamelle. D'abord, on irait prendre l'apéritif, un cinzano, assis devant la mer. Puis, on mangerait le pambagna. La mer le faisait bien. On viendrait me chercher à la gare. D'abord, on prendrait un café crème avec des croissants. On dirait, ils sont bons les croissants. On peut en avoir encore si on veut. On se marrerait. On prendrait des vacances. Il viendrait à Paris. J'irai le chercher à la gare. Un crème au comptoir avec des croissants. Ah, maintenant il fallait la manger. Francis est allé vers le lit. Il s'est baissé. Il a mis la main sur la gamelle. Il l'a tirée. Elle était légère. Sa figure est devenue hagarde. J'ai bondi. Elle était vide. Le nez dedans. Encore vide. Qu'est-ce que t'as fait? Tu ne l'as pas surveillé, criait Francis. Que t'es con, mais t'es con! Nom de Dieu! Nom de Dieu de merde, mais qu'est-ce que t'es con? Il tapait les pieds tournés sur lui-même. Quel est le salaud? Quel est le salaud qui a fait ça? Il tournait. Mes poings se serraient. Quel était le salaud? Celui-là, il nous avait visé. Comme avec un fusil, visé. Il nous avait repéré avec notre soupe. Il l'avait laissé épaissir, fumer. Il nous avait vu la planquer. Et quand j'étais allé au poêle, il l'avait versé dans sa gamelle. Où était-elle la soupe maintenant? Il l'avait mangée. Même si on le trouvait, on ne l'aurait pas. Il faudrait la lui faire vomir. Elle n'existait plus nulle part. On regardait la gamelle. Il restait de la purée sur la paroi à l'intérieur. On reniflait. On voyait le fond. On se la passait. Chacun à son tour la regardait. On devait observer les copains avec des yeux terribles. Les copains avaient les têtes de bienheureux de tapisserie. Je me suis assis sur le lit, la tête entre les mains. Comment faire pour que ça passe? C'était long. Il y avait rarement eu de murs plus hauts à franchir. Gilbert est venu. On a raconté, on s'est vidé. Les mots grignotaient le mur. On a raconté plusieurs fois, on s'excitait. Ça allait recommencer? Non. Enfin, on a rigolé. « Tire-moi les cartes !» dit Gilbert à Francis. Francis avait un jeu et savait les tirer. Il ne pouvait pas encore se distraire. Puis, brusquement, il s'est levé, comme s'il venait de trouver la solution miraculeuse. « Dis donc, on n'y pense plus !» Je devais avoir l'air de réfléchir. Il fallait une réponse. Elle a fini par tomber. On n'y pense plus. Le revire qui était au fond de l'église a été transféré dans une baraque du camp près de l'usine. On a occupé les lits que les malades avaient quittés. Des types ont monté le fameux petit poêle dans le réduit. On l'alimente avec du charbon, volé à côté de l'usine que l'on rapporte chaque soir. Nous sommes une vingtaine là, des Français et des Italiens. Quand on rentre le soir, le poêle ronfle. Il est allumé par ceux qui sont restés à l'église pour quelques corvées. Il y a trois bancs autour du poêle. On se presse pour avoir une place, et ceux qui n'en ont pas restent debout derrière, puis finissent par s'appuyer sur les épaules de ceux qui sont assis. On ne regarde que le poêle. On se grille dessus. La figure rougit, on s'engourdit. On pourrait rester là toujours, se déshabiller dans la chaleur, s'endormir dans la chaleur, oublier le camp de concentration dans la chaleur. Quelques-uns ont pu ramasser des patates au silo. Ils les coupent en rondelles qu'ils collent sur le dessus du poêle. Quand ça commence à brûler, ils piquent la rondelle avec leur couteau et la retirent. Ceux-là ne regardent pas le poêle de la même façon. Ils sont occupés. Ils regardent griller la rondelle qu'ils vont mettre dans leur bouche. Ils vont mâcher. Ils seront un moment comblés par la tranche de patate chaude, par le souci de celle qui grille déjà quand l'autre n'a pas encore été avalée. Et ainsi les yeux ne sont pas vides et les mains non plus. Les autres, ceux qui n'ont pas de patate, regardent griller celle du copain. Ils chauffent leurs mains vides au poêle. Ils se contentent de la chaleur. Ils paraissent seuls à côté des autres, abandonnés, déshérités, sous le coup de l'injustice la plus dure. Assis les uns et les autres sur le même banc, il y en a qui ont des rondelles et d'autres qui n'en ont pas. Mais parmi ceux qui n'en ont pas, il y en a qui sont sérieux. Ils ne regardent pas le copain mettre la rondelle dans sa bouche. Les coudes appuyés aux genoux, la tête penchée vers le poêle, tout embrasé, ils se saoulent de chaleur. Ceux qui sont debout derrière voudraient bien être seulement à la place de ceux qui sont assis et qui n'ont pas de patates. Et ceux qui sont plus loin dans l'église voudraient bien être à la place de ceux qui sont debout et qui reçoivent un peu de chaleur dans la figure. Quelquefois, un capot arrive. Il voit sur la paroi du poêle les traces de ventouses des rondelles. Il fait une fouille sous les paillasses, sous les lits. Il ne trouve rien. On reste en place, le nez sur le poêle, indifférent à l'agitation du capot. Il demande « Qui a des patates ? À qui sont les patates ?» Personne ne répond. Il soupçonne. Il reste un moment là, debout, impuissant, à regarder les dos penchés sur le poêle, puis il se lasse. Il s'en va. D'autres fois, ceux qui ont réussi à avoir suffisamment de patates passent un fil de fer dans une dizaine de patates, puis ils jettent le chapelet dans le poêle. Le capot vient, il fait soulever le couvercle du poêle, il trouve le chapelet qui noircit, il hennit de plaisir. « À qui est-ce ?» Personne ne répond. Il emmène le chapelet. Fièrement, il l'exhibe dans l'allée. Quelques types rient pour se faire bien voir, et royalement, le capot distribue les patates noires à ceux qui ont le mieux ri. Il arrive que l'affaire se termine différemment. Celui à qui appartient le chapelet se désigne. Le réflexe du capot joue aussitôt. Schlag ! Il tape des coups secs. Le type baisse la tête. Il s'enfuit vers l'allée de l'église. Le capot le poursuit et continue à cogner. Des types rient dans l'allée. Le capot se met à rire aussi et, parfois aussi, celui qui reçoit les coups. Les coups continuent à tomber. Le capot est roi. C'est le cirque. Ainsi, presque chaque soir, pour des raisons diverses. Thank you. 4 avril 1945, le canon a tonné toute la nuit. L'ordre de départ est donné. C'est la sortie du camp. Enfin, les malades sont sortis. La colonne des malades a tourné à droite et a grimpé vers le petit bois. Une heure plus tard, la distribution a commencé. Il y avait 3/4 de boules à toucher parce que on allait partir. Les copains tenaient dans la main un morceau de pain énorme. Jamais on n'en a eu d'aussi gros. Et un morceau de margarine. Fritz assistait à la distribution. Il avait l'air à l'aise. Il souriait. En passant à côté de lui, j'ai retenu ma respiration pour ne pas sentir son odeur. Ce matin-là, à la distribution, il n'a pas giflé. Il n'a pas foutu de coup de pied. Il aurait même été plutôt familier. On partait ensemble. Il venait d'assassiner les copains, il était dispo. Tout à l'heure, il serait le long de la colonne pour continuer. Je suis rentré dans la chambre avec mon pain. Je me suis assis sur mon lit et j'ai coupé une tranche. Un autre, assis non loin de moi, mangeait déjà. Un copain s'est approché et lui a demandé « Tu crois vraiment qu'ils les ont tués ?» Celui qui était assis l'a regardé avec mépris. « Pauvre con, tu n'as pas compris, non ?» Nous avons traversé plusieurs hameaux, puis nous sommes entrés dans une région boisée. Le SS a sifflé la pause. La colonne s'est défaite, on est allé s'asseoir sous les arbres. On a sorti le pain. Le ciel était plein de nuages, il faisait sombre dans le bois. Un air frais nous venait dans le dos. On a commencé à manger. Les SS nous encerclaient à une vingtaine de mètres les uns des autres. Ils étaient assis, le fusil à leur côté, et ils mangeaient. Leur pain n'était pas de même espèce que la nôtre. Ils en coupaient de plus gros morceaux. Ils ne le surveillaient pas comme nous. Mes 3/4 de boules diminuaient. J'en avais déjà mangé plus d'un quart et ce n'était que le premier jour de marche. J'ai coupé une tranche bien égale et j'ai étalé un peu de margarine dessus. Avec le couteau, j'ai coupé dans la tranche de petits cubes que j'ai mâchés longtemps. Ce pain formait vite une bouillie dans la bouche. On mangeait, la tête baissée, en regardant alternativement le sol et le pain. Tout le monde mangeait. Lucien, de la viande. Les SS, du saucisson, de la marmelade. Nous, du pain et de la margarine. Les SS avaient en mangeant les manières des soldats. Nous étions attentifs. Nous ne pouvions pas manger et parler. Mon pain diminuait. J'ai réussi à le rentrer sous ma veste et j'ai remis le couteau dans ma poche. On n'avait pas encore sifflé la fin de la pause. Je me suis étendu sur la mousse. Elle était fraîche. La guerre allait finir. Il y avait des morceaux de ciel blanc entre les branches des arbres. Un copain disait dans le bloc « Ce sera le plus beau jour de ma vie, oui, le plus beau jour de ma vie. » Le ciel était tout près, il faisait frais, la mousse était humide. Le pain pesait encore sur ma poitrine et j'en avais encore. Tout à l'heure, j'en couperai une autre tranche. Je serai encore prisonnier quand je couperai la dernière tranche de la guerre. J'étais encore ici, je m'apprêtais à vivre le plus beau jour de ma vie, c'était vrai. Les SS faisaient la ronde autour de nous pour empêcher ce jour d'arriver. Eux ou nous allions mourir. J'avais froid. Je me suis relevé. Paul mangeait. Il a regardé ce qui lui restait de pain et il a coupé une autre tranche. Il n'a pas hésité trop longtemps. Moi, j'ai hésité. J'ai tâté le morceau qui était sous ma veste. Le coup de sifflet a sauvé ma tranche. Je n'ai plus que quelques pommes de terre crues. Je n'ai rien mangé depuis hier matin et je n'ai pas faim. Ma langue est épaisse. La brume de chaleur m'enduit comme d'une glu. Il n'y a pas très longtemps que nous sommes partis. Nous marchons ainsi que depuis 6 jours. Mais déjà la colonne n'a plus de forme. On ne parvient plus à se maintenir en place à côté des copains. ce lien élémentaire qui fait, qui faisait marcher à côté du camarade qu'on avait choisi. On n'a plus la force de l'entretenir, plus la force non plus de parler. De temps à autre. Comment ça va, Paul ? Ça va. Une respiration reprise, un court réveil, comme une syncope dans cette méditation du dos et des pieds où l'on retombe aussitôt. Chacun est seul. On ne fait même plus de prévisions. Un capot est allé chercher du pain avec des Polonais. Une tranche chacun et un bout de saucisson. On passe en file indienne devant le capot qui distribue. Le morceau n'est pas gros. Il sent bon. Le saucisson aussi. Je coupe le pain par petits cubes et je garde la moitié du saucisson dans une petite boîte en dural. Je n'ai rien pu retenir de mon pain. Après avoir mangé, je me suis allongé. Il fait soleil, ma figure est chaude, je somnole. On nous laisse tranquilles pendant plusieurs heures. C'est aujourd'hui 14 avril. Il y a 10 jours que nous sommes partis de Gandersheim. Nous avions au départ touché 3/4 de boule de pain. Les 3/4 de boule ont duré 2 jours. Maintenant, nous venons de recevoir une nouvelle tranche de pain. Les SS savent que nous ne pouvons plus marcher. Ils savent aussi que sur les routes, nous serions rattrapés. Les Alliés sont à 30 kilomètres de nous. Il reste peut-être aux SS encore un moyen de poursuivre l'exécution de l'ordre de nous conduire quelque part. C'est le train. Le train est parti au coucher du soleil. Quelques jours ont passé. Je ne peux plus les compter, ni dire exactement ce qui s'est passé pendant ces jours-là. Notre espace ne s'est pas modifié. Le wagon. Quant au temps, C'était toujours le trou, tantôt blanc, tantôt noir, de la lucarne. Nous n'avons jamais songé à connaître l'heure, ni à savoir si nous étions lundi ou mardi. Je me souviens d'être descendu du wagon à un arrêt. Je tenais mal debout. Je me souviens avoir touché une tranche de pain 2 jours après notre départ de Bitterfeld, d'avoir bu de l'eau de la machine qu'un copain était allé chercher. C'est à Dachau, en apprenant la date de notre arrivée, que nous avons su combien de jours nous avions passé dans le wagon, car nous connaissions la date du départ. Là, on vient d'entrer en Tchécoslovaquie. Le train descend vers Prague. Depuis que nous sommes partis de Bitterfeld, nous avons touché une tranche de pain et un bol de soupe dans une gare. Il y a de cela quelques jours, peut-être 5. Dans leur wagon, les Polonais ont des sacs de pommes de terre. Aux arrêts, on les a vus faire cuire des soupes épaisses. On regardait épaissir leur soupe, puis on pissait et on remontait dans le wagon. Les capots ne toléraient pas que les Français restent au pied du wagon. Pendant une halte, H a réussi à ramasser quelques pissenlits sur le bord de la voie. Il m'en a passé quelques feuilles, ainsi qu'à Joe. On a essuyé les feuilles, puis on les a mangées lentement. Maintenant, il n'y a plus rien. Il faudrait dormir, mais avec ce vide à l'intérieur, ce n'est pas possible. La faim est vigilante, comme une flamme qui veillerait dans le corps nuit et jour. Elle épie le silence, guette le moindre signe possible. Quelque chose à mâcher viendra peut-être. On a quitté Prague dans la nuit. Première halte de jour dans une petite gare tchèque. Le copain appelle un cheminot. « Hier, Franzose, brotte, bite !» Et il fait signe en portant plusieurs fois sa main à sa bouche. « À manger !» On se réveille dans le wagon et les types parlent fort. « Taisez-vous, dit le copain la lucarne, on va peut-être avoir à bouffer. Le cheminot est parti. » Une femme, accoudée à une balustrade, en dehors de la gare, nous a repérés. Le copain lui fait le même signe qu'au cheminot. Elle a acquiescé de la tête. On ne quitte plus des yeux le type qui est à la lucarne. Il n'y a plus un bruit dans le wagon. Tout à coup, la figure du type à la lucarne se crispe. Il passe son bras et ramène un paquet qu'il passe à Ben, qui est assis à ses pieds sous la lucarne. « Dépêche-toi, dit-il, il y en a encore !» Il replonge le bras et ramène un autre paquet. Il rigole en remerciant. Il reste en faction. Ben a posé les deux paquets entre ses jambes. On les regarde. Il ouvre le premier paquet. Des tranches de pain. Dans le second, aussi. On va partager en 49. La femme est revenue près de la balustrade. Elle a passé un paquet à un autre cheminot. Il surveille. « Il arrive !» annonce le copain. Il plonge encore le bras. Du pain et quelques cigarettes. On est sorti de la torpeur. On ne cesse de fixer le copain à la lucarne que pour surveiller le pain que Ben a étalé sur une couverture. Ceux de l'autre extrémité du wagon s'inquiètent. Hey, « Hé, on partage tout, hein ?»« Gueulez pas, vous en aurez, » répond Ben. Je partage et Joe fait la distribution. « Tac, d'accord. » Mais ils tendent les yeux et surveillent le partage. Les tranches de pain s'amoncellent, grandes comme la moitié de la main et épaisses de 2 doigts. Elles font un beau tas. Je commence la distribution. Les tranches passent de main en main, ça fait le tour du wagon. Je mords dans le morceau. Je ne le regarde pas. Jamais je n'ai mâché aussi lentement. Ce morceau m'endort. Je ne le vois même pas diminuer. Quand je n'ai plus rien dans la bouche, je m'arrête un instant, puis lentement j'arrache une autre parcelle. La bouche s'engorge de pain. Il me semble que le corps s'épaissit. 27 avril. Aujourd'hui, à Dachau. Nous sommes partis de Bitterfeld le 14. Nous sommes restés 13 jours dans le wagon. On vient de toucher une tranche de pain. Chacun mange pour soi. Bête, malade et dolente. Les Français du camp ne nous quittent pas. Ils nous ont dit qu'on allait toucher des colis de la Croix-Rouge, 1 colis pour 3. Les Russes flairent le colis qu'on va nous donner et ils nous suivent. Eux ne touchent pas de colis de la Croix-Rouge. Il faut se tasser les uns contre les autres, se tenir, faire même un service d'ordre si l'on veut garder la nourriture. Les camarades du camp nous encadrent, ils ont des bâtons. Les Russes forment un cercle un peu au-delà. Nous sommes assis au centre. Les colis arrivent. Un pour trois. Je suis avec Lancio et un autre. Les Russes s'approchent. Les copains de Dachau lèvent le bâton. Les Russes reculent. On partage le colis. Sucre, viande, Foscao, cigarette. Dans les mains grises, entre les jambes, les richesses s'amoncellent. Tout est pour nous. Les Russes reviennent. Leurs mains se tendent et se crispent dans le vide. Les copains lèvent encore le bâton. Les Polonais bouffaient des soupes épaisses aux arrêts des trains. Nous, on les regardait, et puis on pissait. Maintenant, on mange. C'est notre moment, l'heure de notre nourriture. On mange tout à la fois. Viande, chocolat, viande, biscuits, sucre, pâtes de fruits. On a la bouche pleine de viande et de poussière de Foscao. On n'y arrive pas. Il y a encore beaucoup de choses à manger. Il y en a encore entre les jambes. Les Russes restent immobiles sous le bâton des copains. Les Français mangent. Il faut laisser manger les Français. Les Français à le scheisse. Les Français qui bouffaient les épluchures. Les Français au cou, sur le cul quand ils volaient les patates au silo. Les Français jamais appelés autrement que « encore les Français ». Les Français déchaînés mangent aussi au nom de ceux qui sont morts de faim dans le wagon. Ils mangent avec la rage, en se marrant. Le colis est plein de choses à savourer. À se marrer. À se souvenir qu'il y avait de la viande sur la table. On se regarde, les lèvres gluantes de sucre et de graisse. On hoche la tête et on se marre en se montrant les boîtes de conserve déjà demi-vides. Les yeux des Russes fixent les colis et suivent aussi les mouvements des mains qui puisent dedans et celui des bouches qui mâchent. Les copains les contiennent toujours en levant de temps en temps le bâton. Les Français, eux, mangent. Un Russe se baisse et rampe vers nous en s'accrochant au sol. Ses yeux ont été plus forts. Il avance vers nous comme un aveugle, sous les bâtons levés. On lui lance une boîte vide. Il l'attrape et il la lèche. La torture des Russes autour de nous nous effleure à peine. Nous sommes enfoncés dans la nourriture. Eux en sont au point où l'on attaque pour manger, et seuls les copains, le bâton levé, ont pu nous protéger. Et nous, sommes au point où il est inimaginable que l'on puisse partager de la nourriture avec un autre qu'avec un copain du wagon. Des nuages noirs passent devant le soleil. Nous restons couchés dans l'avenue, au milieu des ordures, en dehors de l'enceinte des baraques, que nous contaminerions avec nos poux. On a bafré si vite qu'une torpeur vient. Mais il ne faut pas dormir, et il ne faut pas non plus s'aventurer seul dans l'avenue, si l'on veut garder ce qu'il reste des colis. Les figures affamées des Russes rôdent toujours autour de nous. Nous restons soudés les uns aux autres. Le ciel est très lourd, vert sombre et jaune à l'horizon. Un orage se prépare. On entend les roulements du canon. Il est proche. J'ai mis un peu de Foscao dans une gamelle. J'ai versé de l'eau dessus. La pluie commence à tomber. On se met la couverture sur la tête. Voilà les premières grosses gouttes qui deviennent de plus en plus denses. Je me lève et je vais chercher un abri sous le rebord d'un toit de baraque. Sous le bras gauche, je porte la boîte en carton avec les restes du tir de colis. Dans la main droite, je tiens la gamelle pleine de Foscao. La pluie tombe maintenant en rafale. Ma couverture se trempe et tombe sur mes yeux. Les autres copains cherchent un abri. Je suis empêtré avec mon carton, ma gamelle, ma couverture déjà trempée de pluie. Le ciel est de plus en plus noir. Bousculé, je vais à la dérive. Les endroits abrités sont déjà occupés. Je cherche encore. Ouflant ! Une violente poussée. Quelque chose s'arrache de mon bras gauche. La gamelle verse et tombe. Pétrifié, je vois des types à mes pieds qui raclent la terre avec leurs ongles pour essayer de ramasser la poudre de cacao. Les morceaux de sucre sont éparpillés tout autour de moi. Les Russes se ruent dessus et se battent. L'attaque a été si violente que la boîte de carton a éclaté. En quelques secondes, il n'y a plus rien à récupérer. J'avale vite les quelques gorgées de Foscao qui restent dans la gamelle. Je reste là, assommé. De nouveau, je n'ai plus rien à manger, comme avant. C'est venu très vite. En une heure, j'ai pu recevoir plus que nous n'attendions depuis près d'un an, manger et me retrouver comme avant, mais cette fois seul, par ma faute. Les copains, eux, tiennent fortement leur boîte sous le bras. Mon bras gauche est encore recourbé. Je tiens devant moi la gamelle vide, comme si elle était encore pleine. La pluie me dégouline sur le nez. Il n'y a nulle part où aller. Je reste sous la pluie. Il vient de m'arriver une catastrophe. Ma gamelle est vide. Et moi aussi, je suis vidé. Je reste là, la couverture sur le nez, abruti. Avril 29. Le jour se lève, pâle. On attend encore des heures. Puis, c'est encore la soupe dehors. Je me force à descendre de la planche. De nouveau mort dans le caniveau. Le ciel est gris. Bas. Des avions américains tournent au-dessus du camp. Les rafales de mitraillettes se rapprochent. Tout le ciel chante. On y est presque. On ne peut pas en être plus près. Ils sont là. Je me relève. Un casque rond passe dans l'allée, devant les fenêtres. La chambrée est haletante. Je me soulève sur mes coudes, tendu sur mon bras. Je suis des yeux les casques qui passent dans l'allée. J'appuie de toutes mes forces. On est libre. Regardez! Regardez! Je retombe. Je n'ai pas pu chanter. Je n'ai pas pu sauter en bas aussitôt pour aller vers les soldats. Nous sommes presque seuls, le vieillard et moi, sur la travée. Les casques ronds ont glissé sur mes yeux. La libération est passée. Les types sortent des blocs. Ils vont renifler un peu la libération. Ceux de notre bloc ne peuvent pas aller sur la grande place du camp parce qu'ils ont encore leur pouls. Alors, ceux qui peuvent encore marcher vont sur l'avenue qui longe le barbelé. Là, il y a des tas d'ordures qui brûlent, et comme il fait froid, ils se chauffent au foyer. Les quelques soldats qui sont de ce côté ont déjà donné leurs cigarettes. Il n'y a rien à dire ni à faire. On regarde les soldats avec leurs mitraillettes et on se chauffe près des ordures. Les hommes ont déjà repris contact avec la gentillesse. Ils croisent de très près les soldats américains, ils regardent leur uniforme. Les avions qui passent très bas font plaisir à voir. Ils peuvent faire le tour du camp s'ils le désirent, mais s'ils voulaient sortir, on leur dirait, pour l'instant, simplement, « C'est interdit, veuillez rentrer ». On est gentil avec eux, et eux aussi sont gentils. Quand on leur dit « Vous allez manger », ils le croient. Depuis hier, ils ne se méfient plus de rien. Cependant, ils ne peuvent pas dire que ces soldats-là les aiment particulièrement. Ce sont des soldats. Ils viennent de loin, du Texas par exemple. Ils ont vu beaucoup de choses. Cependant, ils ne s'attendaient pas à cela. Ils viennent de soulever le couvercle d'une drôle de marmite. C'est une drôle de ville. Il y a des morts par terre, au milieu des ordures, et des types qui se promènent autour. Il y en a qui regardent lourdement les soldats. Il y en a aussi couchés par terre, les yeux ouverts, qui ne regardent plus rien. Il y a aussi des types qui parlent correctement et qui savent des choses sur la guerre. Il y a aussi des types qui s'assoient à côté des ordures et qui gardent la tête basse indéfiniment. Il n'y a pas grand-chose à leur dire, pensent peut-être les soldats. On les a libérés, on est leurs muscles et leurs fusils, mais on n'a rien à dire. C'est effroyable, oui vraiment. Ces Allemands sont plus que des barbares. Frightful, yes, frightful. Oui, vraiment. Effroyable. Quand le soldat dit cela à haute voix, il y en a qui essaient de lui raconter des choses. Le soldat d'abord écoute, puis les types ne s'arrêtent plus. Il raconte, et bientôt le soldat n'écoute plus. Certains hochent la tête et sourient à peine en regardant le soldat, de sorte que le soldat pourrait croire qu'il le méprise un peu. C'est que l'ignorance du soldat apparaît. Immense. Et au détenu, sa propre expérience se révèle pour la première fois comme détachée de lui, en bloc. Devant le soldat, il sent déjà surgir en lui, sous cette réserve, le sentiment qu'il est en proie désormais à une sorte de connaissance infinie, intransmissible.
Nous arrivons ainsi au terme de cette émission consacrée à l'ouvrage de Robert Antelme, L'espèce humaine, enfin des extraits lus par Combord en direct dans nos studios de Radio Canut. Robert Antelme qui est revenu de cette épreuve, mais à l'extrême limite de sa survie. Vous avez pu entendre les pauses musicales qui étaient toutes des extraits d'un morceau improvisé de Terry Riley, musicien américain, un morceau de 1967 qui s'appelle Popino Good. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée à l'écoute de Radio Canu. Nous nous quittons avec un dernier extrait de ce morceau musical et rendez-vous jeudi prochain. Merci.
Thank you.